en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chers confrères, mesdames, messieurs, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir pour cette première communication de la rentrée M. Georges Liébert. Je vous remercie, monsieur, d'avoir accepté l'invitation de notre compagnie sur proposition de notre confrère Jean Prodromides et vous souhaite la plus cordiale bienvenue au sein de notre assemblée. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de dire quelques mots de votre parcours à l'attention de mes confrères et des personnes venues vous écouter. À l'issue de vos études à l'Institut d'études politiques de Paris, vous débutez votre carrière d'éditeur aux éditions Calmann-Lévy. Membre du séminaire de Raymond Aron à l'École pratique des hautes études à partir de 1968, vous cofondez l'année suivante la revue Contrepoint, ancêtre de Commentaires, dont vous devenez le rédacteur en chef. 21 numéros seront publiés sous votre direction. Pendant 2 ans, vous êtes chargé d'études à la Sofres, responsable de la vague mensuelle d'enquêtes par sondage et de diverses autres enquêtes politiques pour la presse, la télévision, les partis politiques et les pouvoirs publics. En 1975, vous devenez maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris dans la section politique, économique et sociale. De 1989 à 1999, vous y co-dirigez avec Marie-Yvonne de Saint-Pulgent un séminaire sur les pratiques et politiques culturelles en France depuis le début du XIXe siècle. En 1977, vous créez la collection Plurielle chez Hachette, collection dite de poche consacrée aux sciences humaines et aux essais, que vous dirigerez jusqu'en 1989. 200 titres y sont parus entre 1977 et 1989. À partir de 1978, vous devenez directeur de collection aux éditions Lafon. Vous dirigez ainsi Liberté 2000 avec Jean-François Revel, Notre époque, Les hommes et l'histoire avec Max Gallo et Emmanuel Todd, Diapason avec Gilles Cantagrel. Après un passage à l'Express en tant que chef de section au service Livres, vous réintégrez les éditions Robert Laffont. Vous y dirigerez jusqu'en 1996 les essais et sciences humaines, principalement dans la collection Bouquins. À l'issue de cette expérience, vous intégrez les éditions Gallimard, où vous assumerez la fonction d'éditeur attaché à la direction jusqu'en 2008. Vous y serez notamment responsable des biographies NRF de la collection TEL et d'essais hors collection. Parallèlement à vos activités d'éditeur, votre passion pour la musique vous a conduit à produire pour France Musique 4 séries d'émissions dominicales, diffusées de 1980 à 1996. Je citerai parmi elles Les matinées de l'orchestre, une histoire de la direction d'orchestre de Berlioz à nos jours, ainsi que plusieurs émissions consacrées aux rapports entretenus par les écrivains à la musique. Nietzsche, Marcel Proust, Paul Valéry notamment. À l'automne dernier, apparut sous votre direction la réédition de la correspondance entre Liszt et Wagner, regroupant les 402 lettres échangées entre les deux compositeurs entre 1840 et 1882. Cet ouvrage, largement salué par la critique littéraire et musicale, apporte, grâce à son remarquable appareil critique, de nombreux éléments sur ces deux génies de la musique. Nous avons évidemment hâte de vous écouter et je vous laisse, cher monsieur, la parole.
Merci, monsieur le président. J'espère être me montrer digne de cette écrasante présentation. Comme vous le savez, Wagner passe pour le méchant, le croque-mitaine, d'une édifiante histoire de la musique, où lui, excepté, ne figurerait, de Bach à Schoenberg, que des saints et des martyrs. À l'opposé, Liszt est auréolé de toutes les vertus censées lui manquer, générosité, modestie, désintéressement, abnégation. Qu'une amitié de près de 40 ans ait uni les deux compositeurs a donc de quoi surprendre, d'autant plus qu'au départ, rien ne semblait les y prédisposer. En 1840-1841, à Paris, qu'il avait follement rêvé de conquérir, Wagner, obscur, famélique, se présentait par deux fois à un Liszt pressé et distrait. Et cet homme, qui, dira-t-il, était devenu la merveille et l'enchantement du monde artistique parisien, lui apparut incarner le contraire de sa nature et de sa situation. Après une fugitive rencontre, Wagner, invité par Liszt, assista à deux flamboyants récitals du pianiste virtuose, alors presque au zénith de sa carrière. À la demande du public, Liszt exécuta plusieurs morceaux de bravoure, en particulier sa fantaisie sur Robert le Diable, le grand opéra à succès de Meyerbeer. « Je n'éprouvais d'autre impression que de l'ahurissement », écrira Wagner dans « Ma vie », son autobiographie. Et sur le moment, dans une lettre de Paris adressée à un journal de Dresde, il regrettait vivement qu'au lieu d'être un artiste libre, Liszt fût l'esclave du public le plus absurde, le public des virtuoses. Après un premier rapprochement à Berlin en décembre 1842, c'est à Dresde, en février 1844, que tous deux firent vraiment connaissance et se lièrent. Une représentation de Rienzi révéla à Liszt le génie de Wagner, tandis que Wagner découvrait, je le cite, « la nature essentiellement aimable et aimante de Liszt, le premier homme, dira-t-il à Cosima, qui lui donna une impression de noblesse ». De divers côtés lui parvinrent ensuite des témoignages de son active sympathie, et celle-ci, après deux nouvelles rencontres, se mua en une sorte d'apostolat. Quand Liszt, nommé Kapellmeister à Weimar en 1842, eut pris effectivement ses fonctions 6 ans plus tard, en mettant fin à sa carrière de virtuose itinérant. Le 18 novembre 1848, l'ouverture de Tannhäuser y est exécutée pour la première fois sous sa direction. Le 16 février suivant, Weimar est, après Dresde en 1845, la deuxième ville d'Allemagne où cet opéra est représenté. Au mois de mai, Liszt héberge Wagner, révolutionnaire en fuite, et le munit de subsides pour gagner Zurich et Paris, où l'attend son ancien secrétaire. Entre-temps, le journal des débats a publié un article élogieux de lui sur Tannhäuser. Au début de 1850, c'est encore à son instigation et avec son aide que Wagner, installé à Zurich, séjourne de nouveau à Paris, dans l'espoir d'y faire adopter un de ses projets d'opéra. Le 28 août, apogée de ce crescendo, Liszt dirige la création de Lohengrin, auquel il consacre peu après un long et vibrant article explicatif. Puis il s'emploie à convaincre le grand-duc héréditaire de Saxe-Weimar, Charles-Alexandre, de passer commande à Wagner d'un nouvel ouvrage intitulé « La mort de Siegfried ». Désormais, Liszt va pendant de nombreuses années répondre inlassablement aux requêtes de Wagner et l'encourager dans ses dessins artistiques. Au rebours d'une légende très répandue, Wagner ne marchandera pas sa reconnaissance. Ses lettres et ses écrits en témoignent. Grâce à l'amour de cet ami si rare entre tous, et dans le moment même où je devenais sans patrie, écrivait-il en 1851, dans une communication à mes amis, j'obtenais, depuis si longtemps désiré, si mal cherché et jamais trouvé, une véritable patrie pour mon art. Liszt fut pour moi ce que je n'avais jamais rencontré encore avec cette plénitude. En août 1876, à Bayreuth, à la fin d'un grand banquet organisé pour les artistes ayant participé au premier festival, Wagner lui portera ce toast. Voici celui qui, le premier, a eu foi en moi, alors que personne ne savait encore rien de moi, et sans lequel vous n'auriez peut-être pas entendu une seule note de moi aujourd'hui, mon ami Franz Liszt. Et il le redira presque dans les mêmes termes en juillet 1882, la veille de la création de Parsifal. Wagner exagérait quelque peu. Depuis la création triomphale de Rienzi en 1842, qui lui avait valu d'être nommé Kapellmeister à l'Opéra de Dresde, il n'était plus un inconnu. Et si, contrastant avec l'atmosphère héroïque de cet opéra, le sombre vaisseau fantôme ne remporta qu'un succès d'estime, Tannhäuser, en revanche, après un accueil mitigé, attira un public de plus en plus enthousiaste. Donné avec des moyens modestes, sur une petite scène, les représentations weimariennes, puis la première très remarquée de Lohengrin, eurent surtout le mérite de montrer que la réputation faite aux ouvrages de Wagner d'être trop complexes pour qu'on les joue ailleurs que dans de grands théâtres était infondée. Moins de 2 ans après, le temps de modifier le répertoire et de préparer les productions, Tannhäuser commença à se propager dans toute l'Allemagne et même les grands théâtres officiels durent répondre à la demande du public en dépit de l'hostilité que leurs intendants ou les gouvernants ressentaient à l'égard de son auteur désormais proscrit. En outre, lorsqu'au cours de l'été 1848, en quête d'un opéra allemand nouveau ou récent à monter lors de l'anniversaire de la Grande-Duchesse de Saxe-Weimar au mois de février suivant, Liszt se décida pour Tannhäuser, il n'avait guère le choix. Depuis Fidelio, créé en 1814, et le Freischütz en 1821, la scène lyrique allemande ne brillait pas par les chefs-d'œuvre. Les opéras de Schubert étaient restés dans ses cartons, et Liszt ayant songé un moment à exhumer Alfonso et Estrella, il en fut dissuadé par la médiocrité du livret, que ne rachetait pas un lyrisme généreux plus proche du Lied que du théâtre. Après Hans Eiling, son ouvrage le plus connu, qui datait de 1833, Marschner avait inexorablement décliné, et bien qu'il eût été nommé en 1842 Generalmusikdirektor de Berlin, Meyerbeer continuait de composer d'abord pour Paris, où il faisait savamment attendre sa nouvelle partition, Le Prophète, commencée en 1838. Des contemporains de Wagner, aucun n'avait produit d'œuvres marquantes. Souffrant du mal d'opéra, comme il disait, Mendelssohn l'avait exorcisé dans l'oratorio sans aller plus loin au théâtre que des ouvertures et des musiques de scène. Quant à Schumann, enfin, sa prière du matin et du soir avait beau être l'opéra allemand, elle tardait à être exaucée. Seul Wagner relevait avec succès l'héritage de Beethoven et de Weber. Les représentations de Tannhäuser et plus encore celles de Lohengrin suscitèrent un vif intérêt et redonnèrent du lustre à Weimar, dont le renom s'était bien fané depuis le règne éclairé du grand-duc Charles-Auguste, le protecteur de Wieland, Herder, Goethe et Schiller. En embrassant la cause de Wagner après avoir renoncé au laurier du virtuose, Liszt rehaussa du même coup sa position, ce qui fera dire à son ami Peter Cornelius que c'est sur les épaules de Wagner qu'il s'était audacieusement et adroitement élevé à la prééminence, bien qu'il ne soit pas de mise d'en convenir, le propos contient une bonne part de vérité. Mais ce n'est pas à un calcul d'ambition qu'obéissait d'abord Liszt. Si le compositeur de Lohengrin lui devint particulièrement cher, il ne fut pas le seul objet de son dévouement bientôt proverbial. Très nombreux les confrères, les collègues, les élèves, auxquels, sans ménager son temps ni sa peine, Liszt s'appliqua à rendre service ou qu'il s'efforça de faire connaître, même quand il ne méritait pas vraiment sa sollicitude. On échappait difficilement à son irrépressible générosité. Avec la pénétration dont il était coutumier, Wagner discerna ce qu'elle avait d'ambigu. Dans une lettre où il le remerciait chaleureusement de son article sur Tannhäuser, il se demandait pourquoi Liszt, cet homme merveilleux, ne s'était pas encore avisé de concentrer sa force de volonté pour concevoir et exécuter une grande œuvre digne de lui. Avec une individualité aussi marquée, serait-il trop peu égoïste ? Est-il trop aimant ? Et fait-il comme Jésus-Christ sur la croix, le sauveur qui ne veut pas se sauver lui-même. Si de ces lignes de Wagner, on rapproche deux confidences de Liszt, l'une à Marie Dagout en 1836, « Faites quelque chose ou quelqu'un de moi », l'autre à Agnès Street en 1855, « Le besoin d'être quelque chose à quelqu'un est une blessure de ma jeunesse qui ne s'est jamais cicatrisée. Une faille douloureuse se dévoile dans sa nature que dissimulait d'ordinaire un charme conquérant. » Le doute qu'il éprouvait sur lui-même et l'insécurité foncière qui en résultait le vouaient à dépendre étroitement d'autrui, comme s'il en attendait des gages de son existence et de son génie. Avoir eu pendant une dizaine d'années tous les publics d'Europe à ses pieds ne fut qu'accentuer cette dépendance. De là, un pressant besoin de plaire, le goût du monde, des honneurs qui lui fit collectionner les décorations. Cette vanité que lui reprochèrent les deux principales compagnes de sa vie, Marie Dagout et Caroline Zenn-Wingenstein, mais, grand ennemi de l'égoïsme, a observé Valérie, la vanité peut engendrer tous les effets de l'amour du prochain. De là également, chez Liszt, un profond besoin d'admirer, et faute d'un égo consistant, la recherche d'alter-égos accomplis qui s'exprima en musique, par une magistrale faculté de transcription et de paraphrase. Il n'est alors pas étonnant que, conquis par Tannhäuser et Lohengrin, Liszt l'ait été aussi par leur auteur, dont la personnalité était presque l'antipode exact de la sienne. Incarnation achevée de ce qu'on appelle l'égoïsme créateur, mû par une indéfectible confiance en soi, c'est à lui-même plus qu'aux autres que Wagner se souciait d'abord de plaire. Aussi a-t-il pu, de 1848 à 1859, empiler, comme il le disait, des opéras, Lohengrin, Lordurin, La Valkyrie, Tristan, sans les entendre avant de très longues années, une vingtaine en ce qui concerne Lordurin et La Valkyrie. En obéissant aux exigences de sa vocation artistique, il devait, se plaignait-il, laisser en friche ses dispositions morales. Être un homme totalement moral signifierait se sacrifier entièrement. Rien ne lui important davantage que son œuvre, l'énergie et la ténacité peu communes qu'il y consacra ne s'embarrassaient pas toujours d'égards ou de scrupules. Ses créanciers, notamment, en surent quelque chose. Mais aussi irritant, désagréable, odieux même qu'il lui arrivait d'être, ce Wagner, qui, dira Nietzsche, n'était qu'implacable volonté de se réaliser, n'en exerçait pas moins un singulier attrait, sans lequel ne s'expliqueraient pas tous les dévouements et bienfaits dont il a bénéficié sa vie durant. Cependant, l'admiration de Liszt pour Wagner et l'amitié qui les unit répondaient d'abord à des motivations d'ordre musical. Tous deux œuvraient à renouveler la musique par son alliance plus intime avec la poésie, selon la formule de Liszt. Aux yeux de Wagner, dans ses ouvrages théoriques de 1850-1851, l'œuvre d'art de l'avenir, puis opéra et drame, les arts, cultivés séparément, étaient voués à s'étioler. Et, alors que l'opéra se contentait de les juxtaposer de façon plus ou moins arbitraire, au mépris souvent de la logique dramatique, dans l'œuvre d'art complète et commune de l'avenir, Gesamtkunstwerk, ils se feraient valoir mutuellement dans une grande synthèse au service du drame. Celui-ci, né, je cite, d'une égale et réciproque pénétration de la musique et de la poésie, serait l'aboutissement de l'histoire, Beethoven ayant ouvert la voie en opérant, je cite de nouveau, la rédemption du son par le mot dans le dernier mouvement de sa 9e symphonie, laquelle serait du même coup la dernière symphonie. Sitôt achevé ce prélude théorique que je viens de résumer à très gros traits, Wagner, à la fois poète et musicien, se lança dans la rédaction et la composition de l'Anneau du Nibelung. Comme l'opéra était à l'époque le grand genre musical et la voie royale du succès, Liszt, lui aussi, quand il avait été nommé à Weimar, ambitionnait de conquérir le théâtre. Au moins un ouvrage lyrique l'occupa quelque temps. Un Sardanapale, sujet alors très à la mode, mais qu'il abandonna, découragé sans doute par les opéras de Wagner. Liszt se repliera sur l'oratorio qui, disait-il, n'exigeait pas d'approfondir l'aspect dramatique. Car s'il avait un tempérament théâtral, comme Berlioz, l'instinct dramatique lui faisait défaut, la capacité de se projeter dans des personnages en action. Mais son énergie créatrice, Liszt, au cours des années 50, l'investit surtout dans la musique dite à programme. Par-delà l'exemple que donnait Berlioz, avec la symphonie fantastique et Harold en Italie, elle avait, d'après lui, sa source dans l'ouverture d'opéra. Aussi, n'est-ce pas un hasard si dans un grand texte sur Tannhäuser, en 1851, Liszt accorde une large place à l'ouverture que, dès 1848, il avait transcrite pour le piano. Cette grande ouverture forme un tout symphonique si complet, écrit-il, qu'on peut la considérer comme un morceau indépendant de l'opéra qu'il précède. Les deux motifs principaux sont si caractéristiques, ils peignent si vivement les émotions qu'ils interprètent, que pour comprendre leur nature, il est inutile de connaître les paroles qui s'y adaptent plus tard. Prétendre qu'elles sont nécessaires à l'intelligence de cette symphonie serait imiter ceux dont Shakespeare dit qu'ils veulent blanchir le lys, peindre la violette, dorer l'or. Revient sur l'ouverture qu'il qualifie de poème symphonique, employant ainsi pour la première fois le terme par lequel il désignera 12 de ses compositions inspirées de textes poétiques, de personnages littéraires ou légendaires. Ce qu'on entend sur la montagne, Mazeppa, d'après Victor Hugo, les préludes, d'après Lamartine, Tasso, Hamlet, Orphée et Prométhée. Ce n'est pas seulement avec l'ouverture de Tannhäuser que ses ouvrages présentent une analogie, mais avec l'opéra lui-même, où déjà, observé Liszt en 1851, Wagner s'est affranchi du découpage traditionnel en numéros séparés. De fait, comme l'a souligné le musicologue Alfred Einstein, la méthode de composition de l'un et de l'autre révèle une parenté essentielle en raison de leur tempérament romantique et révolutionnaire. Par révolutionnaire, il faut entendre ici que c'est une même liberté formelle qui distingue leur démarche. La cohésion et l'unité des œuvres ne sont plus assurées par des formes ou des cadres fixes, mais par des motifs caractéristiques de leitmotiv chez Wagner, sujets à transformation. On comprend donc qu'en 1859, dédiant à Wagner sa symphonie Dante, Liszt ait vu en lui son maître et son modèle. 2 ans auparavant, Wagner, dans sa lettre sur les poèmes symphoniques de Liszt, avait salué la métamorphose du virtuose en un compositeur accompli et le créditait chaleureusement d'avoir inventé un genre symphonique nouveau, ce qui n'allait pas, de sa part, sans faire subir une notable inflexion à la théorie exposée dans Opéra et Drame. Bien sûr, tous les poèmes symphoniques de Liszt ne lui plaisaient pas également. Par le journal de Cosima et telle lettre à Mathilde Wezendonck, nous savons qu'il déplorait sa manie de l'apothéose et sa recherche d'effets tout extérieurs qu'il apparentait à l'école française, Victor Hugo en tête. Mais ces critiques n'altéraient pas son admiration pour la faculté qu'avait son ami de créer, chaque fois, la forme que réclamait le motif poétique. Autre trait commun, la liberté harmonique, particulièrement chez Liszt. Grand expérimentateur, au piano, l'instrument y invite, par goût de l'innovation, de la trouvaille, et aussi parce que le virtuose ne répugnait pas aux effets, il persévéra avec l'orchestre. Wagner ne cachera pas qu'il lui devait beaucoup, qu'il l'avait même plusieurs fois volé, mais sans chercher à être aussi novateur. Les hardiesses ou les subtilités harmoniques ne l'intéressaient pas en tant que telles. Il en usait seulement pour intensifier les capacités expressives du système tonal, qu'il n'entendait pas subvertir, et à condition qu'elles fussent pleinement justifiées par la progression dramatique sous peine de dérouter l'auditeur. Enfin, Liszt et Wagner avaient aussi en commun beaucoup d'adversaires et d'ennemis. La critique dans son ensemble et une large partie très conservatrice de l'establishment musical germanique dont le bastion était Leipzig. De là, où ils avaient appris à confectionner dans les règles symphonies et cantates, élèves ou disciples de Mendelssohn avaient essaimé dans toute l'Allemagne à la tête d'orchestres, de festivals, de conservatoires, formant cette association bigote de tempérance musicale que Wagner brocarda en 1869 dans son essai sur la direction d'orchestre. Liszt et lui étaient souvent leur bête noire. N'y aurait-il eu entre eux que la musique, donc leur amitié eût sans doute été sans nuages. Mais le contraste des caractères se doublait d'une opposition d'idées et de convictions. C'est d'un républicain hardi que s'était éprise Marie Dagout en 1833. Mortifiée 5 ans plus tôt d'avoir dû rompre toute relation avec une belle aristocrate de ses élèves à cause de sa condition de pianiste, Liszt appelait alors de ses voeux l'abolition des aristocraties fondées sur la naissance. Puis, confusément entraîné par toutes les souffrances et toutes les doctrines du temps, comme l'en raillait Heine, il sympathisa avec les Saint-Simoniens, persuadé qu'une grande mission sociale et religieuse s'imposait aux artistes. Subjugué peu après par Lamennais, il prônait une musique nouvelle, humanitaire, destinée à unir Dieu et le peuple. Ce progressisme éclectique, Liszt le laissa loin derrière lui quand il s'installa à Weimar avec la princesse Zène Wittgenstein, qui avait fui pour lui son époux et la Russie. C'est avec joie, mais en privé seulement, qu'il accueillit les révolutions de 1848-1849, en particulier la formation d'un gouvernement hongrois indépendant. Et à la surprise attristée de nombre de ses amis, il resta silencieux lorsque le soulèvement de ses compatriotes fut écrasé par les troupes russes alliées aux Autrichiens. Il se félicita même de l'alliance austro-russe qui consolidait le statu quo monarchique en Europe. La grande duchesse de Saxe-Weimar, sa protectrice, était la sœur du tsar, et sans l'accord de celui-ci, le mariage de la princesse ne pourrait être annulé. Quand le tsar fit des difficultés, Liszt tourna anti-russe. Entre-temps, il avait approuvé, comme Berlioz, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, et il allait vouer à l'empereur une fervente admiration. La princesse, donc Caroline Sayn-Wittgenstein, ayant réveillé la foi de son enfance, Liszt, après l'échec de leur projet de mariage en 1861, dira répondre à sa vraie question en recevant les ordres mineurs de la prêtrise, lesquels toutefois n'impliquaient pas le vœu de chasteté. Dès lors, abbé, il adopta un catholicisme des plus orthodoxes, aligné sur celui de Louis Veuillot, le polémiste réactionnaire et ultramontain, qu'il lisait passionnément. Le pouvoir temporel du pape, qu'il défendait en blâmant donc le mouvement vers l'unité italienne, ne pouvait s'accorder avec les principes de 89, d'autant moins que ces fameux principes, si souvent invoqués, disait-il, avaient conduit aux catastrophes de 93. Et lui, qui avait attendu 20 ans pour être anobli, avant d'être nommé chambellan par le grand-duc de Saxe-Weimar, il était devenu, à la fin de sa vie, la coqueluche des salons de Rome, Vienne et Budapest, où il consentait à se mettre de nouveau au piano devant un public très choisi. L'hostilité à l'aristocratie et au statu quo était un trait saillant des articles que Wagner avait publiés en 1848 à Dresde, au moment où, sous l'influence de son ami Roeckel et de Bakounine, il se lançait dans l'agitation révolutionnaire. S'y mêlait une forme pré-marxiste d'anticapitalisme, centrée sur la dénonciation des méfaits de l'argent et de la propriété, ainsi qu'une vision anarchiste de l'organisation sociale. Ces idées, Wagner les développa dans ses écrits des années 1849-1851, et elles formèrent la trame de l'Anneau du Nibelung, où la malédiction de l'or entraîne la fin des dieux. La réaction qui triompha en Allemagne en 1849 et 2 ans plus tard le coup d'État de Louis-Napoléon réduisirent à néant ses espoirs. L'abattement dans lequel ils le plongèrent n'entama cependant pas ses convictions, même s'il se garda désormais de les exprimer publiquement. Ayant embrassé la philosophie pessimiste de Schopenhauer en 1855, il restait cependant attaché à l'idée d'évolution et ne désespérait pas que l'homme parvint à s'ennoblir, ne serait-ce que sous l'action de l'art, et en particulier de ses propres œuvres. Certes, il ne croyait plus à la révolution, mais ne renonçait pas pour autant à toutes les aspirations de sa jeunesse. À preuve, dans ses dernières années, la sympathie qu'il témoignait à l'égard des mouvements socialistes. La législation passée par Bismarck contre les sociaux-démocrates l'indignait, et il approuvait les nihilistes russes. « Je suis toujours du côté des rebelles », disait-il. Si l'on ajoute que Wagner, en bon luthérien de culture sinon de foi, détestait l'Église catholique, cette peste du monde, les motifs de différend ne manquaient pas entre Liszt et lui. Évoquant dans ma vie 2 circonstances où, à Zurich, en octobre 1956, à propos de Napoléon III et de Goethe, s'était manifestée l'humeur irascible et presque querelleuse de Liszt, tandis que lui-même parvenait à conserver son calme, il remarque avec clairvoyance « Jamais il n'y eut de mots violents entre nous. Mais j'ai gardé toute ma vie le sentiment obscur que la dispute pourrait éclater un jour et qu'alors ce serait effrayant. Et peut-être est-ce ce sentiment qui m'a toujours empêché de me fâcher contre lui, bien que mon irascibilité et mon emportement soient assez connus de mes amis. Nous gagnons beaucoup à rester éloignés l'un de l'autre », avait-il noté en 1858. Et en effet, il est heureux pour eux et pour nous qu'entre 1849 et 1861, année où amnistié, Wagner put rentrer en Allemagne, leur relation ait été essentiellement épistolaire. Presque jamais, ils n'abordent des sujets qu'ils savaient périlleux. Craignant en outre les indiscrétions d'un poste de Weimar, Liszt répondait rarement aux lettres les plus pensées ou les plus personnelles de Wagner qui s'en plaignaient. Aussi, leur correspondance donne-t-elle parfois l'impression de se réduire à un échange par son entremise entre Wagner et lui-même, mais sans pour autant être moins intéressante. Du reste, ce n'est pas vraiment une dispute qui fut la cause du refroidissement de leurs relations dans les années 60. Un mouvement d'humeur de Liszt en janvier 59, provoqué par une requête maladroite de Wagner, n'aurait sans doute pas tiré à conséquence s'il n'y avait eu en tiers la princesse. Voulant faire de Liszt le plus grand compositeur de son temps, après avoir admiré Wagner, elle conçut envers celui-ci une jalousie grandissante. S'y greffa la méfiance, puis l'hostilité que lui inspirèrent l'adhésion du compositeur de Tannhäuser et de Lohengrin, qu'elle tenait pour des opéras catholiques, à la philosophie athée de Schopenhauer et son inclination pour le bouddhisme. À divers indices, Wagner soupçonna qu'elle suggérait à Liszt d'avoir envers lui une attitude plus réservée, et il s'impatienta que leur intimité fût exposée à ses yeux. En octobre 59, une indiscrétion de Hans von Bülow, à qui il s'en était ouvert, envenima les choses. Et quand, quelques années plus tard, Cosima, la fille cadette de Liszt, quitta Bülow pour Wagner, elle s'évertua à convaincre Liszt de rompre avec lui. Il fallut que Liszt prît ses distances avec la princesse pour qu'à partir de 1872, des relations suivies se rétablissent entre Wagner et lui. Elles passèrent beaucoup moins qu'auparavant par un échange direct de lettres, car Cosima servait souvent d'intermédiaire. Mais de fréquentes rencontres les rendirent plus étroites, alors que divergeaient les courbes dessinées par leurs existences, l'une ascendante, l'autre déclinante. Wagner achève la composition du Ring, édifie le théâtre de Bayreuth, y organise le premier festival et couronne son œuvre en apothéose avec la création de Parsifal. Liszt, lui, tout en maudissant les voyages, vagabonde entre Rome, Weimar et Budapest. Depuis l'oratorio La Légende de Sainte-Élisabeth, achevé en 62, et les deux légendes pour piano composées l'année suivante, la sève créatrice reflue. Et maintenant, sa santé se détériore, par suite surtout d'un insurmontable besoin de vin et d'alcool, comme le rapportera l'ami qui veillait sur lui à Weimar. Affranchi de la tutelle de la princesse, quand celle-ci était partie pour Rome en mai 1860, il avait du même coup perdu l'armature psychique et morale qu'elle lui assurait. Il avait besoin d'elle pour se réconcilier avec lui-même et ne pas être accablé de son insuffisance, lui confiait-il peu après son départ. Et l'année suivante, la raison d'être me manque. Elle croyait plus en Liszt que Liszt ne croyait en lui. La fatigue de vivre, je le cite, le gagnait. Son moi lui paraissait superflu, se plaignait-il à une proche. Et il devenait un individu de plus en plus impersonnel. Aussi était-il comme aimanté par ce puissant alter ego qu'était Wagner, au point de se dire, je le cite, perpétuellement son esclave amoureux. À Weimar, à Bayreuth, métropole de l'idéal, je cite toujours Liszt, à Sienne, à Venise, peu avant la mort de Wagner, ils se retrouvaient, non sans quelques frictions, mais unis dans la musique. Au piano, loin de l'absurde public des virtuoses, Liszt, de l'avis de Wagner, se montrait l'incomparable interprète de Beethoven et de Bach qu'il lui avait révélé. S'y ajoutaient certaines de ses œuvres, la sonate en si mineur notamment, que Wagner admirait depuis qu'il l'avait entendue à Londres en avril 1855, sous les doigts d'un ancien élève de Liszt. Cette intimité avec Wagner et dans son ombre navrait la princesse. Et elle s'indignait à l'idée qu'on pourrait, un jour, à Weimar, leur élever une double statue face à celle de Goethe et Schiller. Des musiciens trouvaient aussi le rapprochement incongru, mais pour des raisons opposées. Ainsi, le chef d'orchestre Hermann Levy, qui était chef d'orchestre de la cour de Munich, qui dirigera la première de Parsifal en 1882, écrivait-il en 1876 à Clara Schumann. Les gens qui se disent wagnériens et qui hissent sur leur pavois, à côté de Wagner, un charlatan de talent comme Liszt, me donnent autant la nausée que me sont incompréhensibles ceux qui s'opposent à Wagner par principe. 3 ans plus tard, il le redisait au grand violoniste Joseph Joachim, lequel, d'abord très proche de Liszt, s'était éloigné de lui parce qu'il le soupçonnait d'insincérité et surtout parce qu'il détestait sa musique. Et il était persuadé qu'un homme du discernement de Wagner ne pouvait pas ne pas avoir sur elle une aussi piètre opinion que lui-même, Brahms et bien d'autres. Même un listien et wagnérien de la première heure, comme Bülow, finira par être de l'avis de Joachim sur la musique de son ex-beau-père. Dès 1866, il avouait à un ami que l'enthousiasme qu'elle lui avait d'abord inspiré avait beaucoup diminué, et que s'il continuait à s'en faire le prosélyte, c'était surtout par déférence pour lui et par gratitude. Aujourd'hui, si le canon de la littérature pianistique comprend plusieurs œuvres de Liszt, ses ouvrages symphoniques et choraux, auxquels il attachait surtout son renom de compositeur, ont presque disparu des programmes. Mais l'homme est quasiment sanctifié, tandis que Wagner, dont les opéras ne quittent pas l'affiche, est diabolisé. Ce discrédit ne tient pas seulement à son antisémitisme. Bien qu'à lire certains commentateurs, on ait parfois l'impression que le triste libelle sur le judaïsme dans la musique serait son œuvre principale et la matrice des opéras qui suivirent. La figure dominatrice, égocentrique, héroïque de l'artiste de génie, comme celle du grand homme en général, n'a plus du tout bonne presse. Même Beethoven, naguère le symbole prométhéen de la victoire sur soi-même et du destin conquis, pour parler comme Romain Rolland, a perdu beaucoup de son prestige au profit d'un Mozart transformé en punk hennissant. Et voilà pourquoi notre époque a plus d'indulgence pour les défauts et les faiblesses de Liszt que pour les qualités de Wagner. Je vous remercie.